Vous écoutez Parle-moi de ça, c'est moi, Marcel Richard, votre animateur, puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va! Allô et merci d'être là pour une autre émission de Parle-moi de ça. Cette semaine à l'émission, j'ai un ami, j'ai un conférencier jeunesse sur l'intimidation scolaire qui donne des conférences sur le sujet dans des écoles au primaire et au secondaire partout au Canada. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine avec moi Alain Pelletier. Puis dans l'émission, on discute de les victimes de l'intimidation, le rôle que la confiance joue pour ne pas se sentir comme une victime. Puis on parle de comment réaliser qu'un enfant se fait intimider puis de comment l'aborder avec cet enfant-là. On parle du rôle que les témoins de l'intimidation peuvent jouer pour aider les victimes. On parle de l'intimidation du point de vue de l'agresseur. On dirait que c'est pas quoi que j'avais trop pensé à avant, puis j'ai vraiment aimé ça. On parle de la cyber-intimidation. Puis on parle de comment est-ce qu'il n'est jamais trop tard pour s'excuser, puis les effets que ça peut avoir. On parle un peu de nos expériences personnelles avec ça. Alors j'espère que vous allez aimer ça autant que j'ai eu le fun à parler avec Alain. Alors sans plus tarder, voici ma conversation avec Alain Pelletier. Je suis ici avec Alain Pelletier. Alain, on a eu bien du fun à parler avant ce site, mais je me dis, hey, il faut qu'on pèse record. So, je vais te demander, Alain, tu fais une présentation, tu es comme un expert sur l'intimidation, puis je file qu'on est close, on offre, on se fait longtemps, c'est qu'on se parle, que je peux te demander la question de c'est quoi ce qui est ton histoire d'intimidation? Pourquoi est-ce que le sujet te touche, puis pourquoi est-ce que ça est devenu ton calling de parler de l'intimidation puis essayer d'aider les gens dans ce realm-là?
Je voyais dans les écoles que l'intimidation, évidemment, c'est un sujet qui est vraiment à la une. Tout le monde en parle. Puis il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les écoles, dans les familles, pour être capable de l'arrêter ou de le contrer ou de l'améliorer ou de bon. Puis quand j'ai eu une offre pour en donner une, je me suis dit, OK, je peux pas faire quelque chose qui est déjà faite, ou faut que je fasse quelque chose de différent parce qu'il y a tellement de choses qui se fait présentement sur le sujet, faut que je sois différent. Fait que je me suis un peu basé sur moi, puis la raison que je me suis basé sur moi, c'est que j'ai déjà été une victime. Puis là, tout le monde me dit, ah, j'ai déjà été une victime, moi aussi, puis bon. La différence, c'est que j'ai déjà été une victime, c'est pour ça que j'ai vécu de l'intimidation. La journée où j'ai arrêté de me dire victime, j'ai comme arrêté d'en vivre de l'intimidation. Fait qu'un peu, ça jouait que j'en reçois ou j'en reçois pas. Dans le fond, c'était ma décision un peu. Je trouvais que c'était ma décision. Fait que j'ai comme pris ce twist-là. Là.
C'était quoi pour toi arrêter de devenir une victime?
Tu sais, si je te définissais une victime, dans ta tête, tu vas avoir une image non-verbalement. Tu sais, tu vas avoir un enfant qui est renfermé sur lui-même, qui est quiet, qui parle pas beaucoup, qui... Tu sais, on a toute cette image-là en tête. Puis la journée où tu commences à avoir un non-verbal de confiance, si, par exemple, Marcel est un agresseur, puis tu es à l'école, puis tu veux intimider une victime pour te sentir en confiance, tu vas aller voir qui? Est-ce que tu vas aller voir la personne que non-verbalement est un agneau ou tu vas retourner voir un autre lion? Évidemment, tu vas te prendre sur ce qui paraît être le plus faible. Fait que la raison que j'ai vécu de l'intimidation, c'est parce que j'étais une victime. La journée que j'ai arrêté d'être une victime, mon comportement non-verbal a arrêté, a changé, puis soudainement, les gens ont arrêté de piquer sur moi ou arrêté de m'intimider. As-tu du sens ce que je dis là?
Oui, mais spécifiquement, on dirait que c'est plus difficile. Puis, je suis curieux de comment est-ce que tu as fait pour changer cette attitude-là, parce que ça arrive pas du jour au lendemain de dire comme, OK, non, j'ai fini. Puis, comment est-ce que ça fait?
Je me suis pas vraiment dit, OK, j'ai fini. En fait, moi, j'ai eu le privilège d'avoir des parents en or. OK, tu sais, quand on grandit, quand on devient adulte ou parent nous-mêmes, on voit nos parents envers nous-mêmes complètement différents. Puis, à ça que j'en ai, puis à ça que je suis reculé, sincèrement, j'ai eu des parents en or. Puis ce que, tu sais, j'arrivais à la maison, comme probablement beaucoup d'enfants, puis je racontais mes journées à mes parents, j'étais un peu, tu sais, démoli, pas démoli, mais il y avait rien qui arrivait, tu sais, je faisais pas des bonnes notes à l'école, j'avais des amis, je n'avais pas beaucoup, j'avais pas nécessairement de sport ou de, je jouais pas de musique, je faisais pas d'extracurriculum, j'avais pas de choses que je faisais en dehors des heures d'école. Puis mon père, moi, il était une fois inscrit c'était du taekwondo à l'époque. Puis moi, je tripais ben raide sur les Ninja Turtles. Et à l'époque, okay. Les années 90, l'original, ou 89, l'original. Puis il a dit, OK, clairement, il y a un intérêt, je l'inscris dans des arts martiaux. Puis ça, ce que ça l'a fait, pour la première fois de ma vie, ou que je me sens que c'était la première fois de ma vie, j'étais vraiment bon à faire quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'était des arts martiaux. J'étais pas nécessairement bon à l'école, j'avais joué du hockey, mais j'étais pas vraiment bon. Puis, mais ça, là, je voyais que j'étais capable d'exceller. Puis en dedans, ça me faisait ressentir vraiment bien. Donc ça, en faisant du taekwondo, qui à l'époque a changé au karaté, j'ai été capable de générer une confiance envers moi-même. Puis quand cette confiance-là, c'est pas du jour au lendemain, tu sais, c'est petit à petit, non-verbalement, je commençais à avoir confiance. Puis là, j'allais à l'école, puis je me portais différemment. Je marchais différemment. Puis là, soudainement, devine qu'est-ce qui arrivait à mes notes à l'école. Et ça augmentait un petit peu parce que j'étais confiant en moi-même. Ça fait tout le reste des sphères qui m'entouraient ont comme arrêté ou ont changé pour le mieux. Tu sais, évidemment, l'agression aussi a fini par arrêter éventuellement. Mais ce qui faisait en sorte que ça a commencé à changer, c'est la réalisation que j'étais capable d'être confiant en moi-même, puis j'étais capable de générer moi-même en allant faire cet art martiaux-là.
C'est ça, je trouve vraiment intéressant. Puis ici, tu dirais que les arts martiaux, c'est quand même quelque chose que tu te dis comme, OK, ben là, ça te donne une confiance que tu peux te défendre. C'est comme, ouais, tu veux me pousser around, ben moi, je vais me montrer que tu peux pas. Ça, c'est quand même une puissance en soi qu'on sent de, OK, je peux me défendre. Ça te donne de la confiance comme ça, mais ça, je trouve intéressant, c'est que c'est pas nécessairement parce que c'est les arts martiaux. Ça aurait pu être n'importe quoi. Si tu ramasses une guitare puis tu deviens bon à jouer de la guitare, on dirait que ça apporte comme une confiance que je pense qu'il va faire, que c'est plus dur pour les autres d'arriver puis de te voir comme le mouton et non le lion.
Oh, t'as absolument raison. Tu remplaceras art martial par de la musique, de la peinture, du ski alpin, peu importe ce que l'élève ou ce que l'enfant va faire, si quelque chose-là génère de la confiance en lui, le but, c'est de générer, ou le but, c'est de donner un avenue où l'enfant ou la personne peut aller rechercher une confiance. On a tous déjà vécu des journées qui sont pas le fun dans nos vies, ou qu'on sent, on dirait que tout nous arrive, là, ça va pas bien, tu te lèves du mauvais pied, mais bon. Mais quand je me sens pas bien dans ma journée, je me sens, là, si je vais faire ça, ce moment-là de ma vie, je le sais que je vais me sentir bien, c'est un peu une délivrance, je me sens que j'ai plus de problèmes, je me sens que la vie extérieure n'existe pas, je peux juste être je en train de faire ça. Mais ça, quand tu donnes des avenues à nos enfants, que si jamais ils vont pas bien à l'école, puis qu'ils sentent pas en confiance, s'ils vont faire ça, ils sont capables d'aller chercher. Donc, si tu as un élève qui sent pas confiant en lui-même, puis tu lui donnes plein d'avenues, ça peut, moi c'était le karaté, mais ça peut être une chose et plein de choses en même temps. Si l'élève est vraiment bon à faire de la clarinette puis de la peinture, puis bon, tu lui donnes des chemins auxquels il est capable d'aller rechercher ça. Puis quand tu donnes des outils ou des chemins avec lesquels les enfants peuvent aller chercher une confiance, évidemment, non-verbalement, l'intimidation, par défaut, ça va arrêter parce qu'ils vont arrêter d'être un comportement ou un non-verbal de mouton.
OK. Comme moi, j'ai pas d'enfant, ça, je le sais pas, puis comme je suis curieux, c'est que c'est évident quand ton enfant se fait intimider, parce que moi, je m'ai fait intimider, peut-être pas si pire que, comme on dirait, des fois on se dit que c'est pas si pire que ça, quand peut-être que ça l'est, on le sait pas, mais je suis curieux si, moi je n'aurais probablement pas parlé trop à mes parents, mais est-ce que c'est évident lorsqu'un enfant se fait intimider, puis est-ce qu'il y a des choses qu'un parent peut faire pour essayer de découvrir ça, puis de voir, OK, j'ai besoin de faire quelque chose, puis que ça serait pour y donner de la confiance?
Ouais. La réponse est oui et non. Parce que au début, évidemment, les enfants vont peut-être le cacher ou on va dire ah, it's fine, c'est correct, tu sais, ils vont un peu là brosser ça sous le tapis puis ils vont dire tu sais ça me tente pas d'en parler. Puis ça c'est correct. Oui. T'sais, à un moment donné, mais non verbalement. Là je te dis ça sous toute réserve. Moi j'ai un enfant d'un an puis 4 ans. C'est qu'ils vont pas encore à l'école. Non verbalement ça va très bien. Ils sont aussi tannants qu'ils devraient être pour un enfant d'un an puis 4 ans. ils sont dans le bon spot, dans la bonne énergie, ça va bien.
Ouais.
Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais tu sais, quand je parle à des parents ou quand je donne des conférences pour des parents, eux autres, ils viennent me voir puis ils m'ont dit, ben oui, je le vois. Puis leur réflexe comme parent, c'est d'aller les voir puis dire, ben qu'est-ce qui se passe? Comment ça, tu souris plus? Tu sais, ils sont je veux dire, tannants. Tu sais, ils sont tannants avec le grand sens du mot, dans le sens que ils veulent juste bien faire, ils veulent que leur enfant soit aussi pétillant qu'ils ont déjà été. Ils veulent voir leur enfant tannant, comme je suis en train de dire, de des miens. Mais quand on voit l'énergie qui est différente, souvent, leur réflexe, c'est d'aller les voir puis d'aller les aider des parents. Puis des fois, ça fait en sorte que les enfants, ils sont juste pas prêts à en parler. Si ton enfant est pas prêt, il est pas prêt, il va juste dire « c'est fine ». Il y a des comportements non-verbales, évidemment, que tu peux voir. Un retrait, les épaules tournées par en avant, la chute des notes. Les enfants ont soudainement mal au ventre juste parce que ils ont fait beaucoup de cauchemars, ils ont de la difficulté à tomber endormi. Tu sais, leur allure, l'énergie qu'ils ont en face, l'énergie qu'ils dégagent comme enfant, tu sais, tu peux leur voir, tu peux leur sentir ça. Qu'il y a quelque chose, there's something wrong, mais t'es pas sûr exactement qu'est-ce qui se passe, hein. Fait que des fois, quand l'enfant est pas prêt à parler, souvent, c'est juste dire, hey, regarde, tu sais quoi, je suis là pour te parler. Si tu veux pas me parler, c'est correct. Puis, qu'est-ce que le parent peut faire? Moi, j'avais une maman qui était, alors, je vais dire tannante, parce que, tu sais, c'est pas négatif, ce que je dis là, c'est, elle était une maman. Puis elle, quand elle voyait que dans tout le processus que j'allais pas bien, à toutes les nuits, puis c'était immanquable. Moi, ben, je regarde en arrière, je me dis, ah, oh, t'étais fatigante. Elle faisait bien sa job. Okay. Tous les soirs, elle venait me border dans le lit, puis elle s'assoyait, elle se couchait dans le lit, puis elle me parlait. Puis, c'était pas tout le temps un questionnaire. C'était pas, hey, comment ça va? Comment ça allait à l'école? C'est pas moi, maman qui pose des questions, puis l'élève ou l'enfant qui répond. Elle me posait des fois la question, des fois elle me parlait de sa journée à elle. Elle disait, hey, moi aujourd'hui j'ai une grosse journée, j'ai eu mal à la tête. Puis elle me racontait comme si j'étais un adulte à côté d'elle. Puis ça, ce que ça l'a fait, ça a créé deux choses. Un, ça l'a humanisé le parent. Elle disait, OK, ils ont des sentiments eux autres aussi. Ils ont des journées qui vont pas bien eux autres aussi. Parce que quand tu regardes nos parents, on voit le succès. Hein, on voit la personne qui travaille bien. On voit le c'est quoi notre nord. C'est ça qu'on devrait en devenir. Nos premiers modèles, c'est nos parents. Mais quand tu vois que nos parents aussi vivent des journées qui sont plus difficiles, tu dis, OK, on humanise. Puis la deuxième chose que ça fait, c'est que une fois que le parent ou la maman ou le papa est humanisé, là, je me sens confortable d'en parler parce que elle aussi ou lui aussi vit des émotions qui sont négatives des fois. Donc, on se sent confortable un peu d'en parler. Ça, là, c'est une porte d'ouverture extraordinaire. Une fois que tu as créé ce lien de confiance-là, avec ton enfant. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut que tu sois des amis avec tes parents. Je suis en train de dire faut que tu humanises le titre de maman ou que tu humanises le titre de papa pour être capable d'avoir l'ouverture que ton enfant en parle.
Ouais, c'est nice ça. Puis je pense que c'est la difficulté. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui diraient que c'est difficile de savoir ce qui se passe dans la vie des enfants parce qu'il y a de quoi. C'est pas cool de parler à tes parents. Puis j'ai déjà vu une partie de ta conférence où ce que tu dis, comme c'est disons que tu te fais intimider à l'école, ben tu vas pas aller le dire à l'enseignante parce que là, tu sais que si tu dis à l'enseignante, là, il y en a tanné deux fois plus parce que t'es le rat, tu sais, t'es la personne qui. Il y a comme une dynamique, que, surtout quand t'es jeune, que t'as besoin de fitter in, c'est quelque chose qui est quand même naturel à tous les humains, mais qu'est-ce que les stratégies que tu peux donner à ces jeunes-là pour essayer de peut-être se sortir d'une situation immédiatement parce que la confiance, ça va prendre du temps à se développer?
Oh, évidemment. Là, si tes parents t'ont donné des avenues à aller chercher une confiance, ça, c'est la chose numéro un. Essaye d'enlever, d'être une personne qui est capable d'avoir une confiance en elle. Puis, un coup que ça s'établit, là, évidemment, on dit tout le temps à nos enfants ou à nos élèves, va voir le prof, va voir le parent. Mais c'est pas si évident que ça. Hein? Au début, on se renferme sur nous-mêmes, puis ils disent, ben, c'est des jokes ou c'est des blagues, mais ça doit être des blagues. Pas nécessairement normal que je me sente comme ça. Puis là, après un moment donné, ils disent, OK, là, l'émotion, ça devient un peu plus négatif. Là, les blagues commencent à devenir plus crues ou plus cruelles ou plus régulières. Là, tu dis, OK, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? T'en parles peut-être à ton ami. Là, ton ami, il se sent un peu comme de témoin, mais il a peur. Il a peur d'avancer puis d'arrêter l'intimidation de peur que lui devienne la victime aussi. Donc, il devient un témoin non actif. Il regarde ça d'un point de vue extérieur. Il va t'écouter, mais il va pas nécessairement rien faire. À un moment donné, tu dis, ben, OK, pourquoi tu me donnes pas un coup de main? J'ai demandé d'arrêter à l'agresseur, il arrête pas. Là, soudainement, on a une sens de frustration, puis on décide d'aller en parler. Puis là, régulièrement, ou ce qui risque d'arriver, qui est pas le fun, c'est que le prof ou le parent prenne pas la discussion ou l'ouverture de l'enfant au sérieux. Ou le contraire. Ils prennent trop au sérieux, puis on s'en va chicaner l'agresseur comme si c'était le pire humain sur la terre. Mais là, dans les deux cas, peut-être que l'élève, il est pas prêt à faire chicaner l'agresseur ou il est pas prêt à faire rien. Des fois, la première étape, c'est juste de dire, OK, je vais t'écouter, puis demander à l'élève, qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive? Est-ce que tu veux que j'intervienne? Est-ce que tu veux que j'aille voir la personne? Comment, c'est quoi la solution, penses-tu? Puis s'il y en a pas, des fois, c'est juste de garder le statu quo, mais de créer cette ouverture-là. Si l'élève sait qu'il est capable d'avoir confiance en une personne, au moins, il y a une porte de sortie. Il sait que si jamais il arrive quelque chose, elle ou lui va être capable de l'écouter. La journée que ça va être le temps d'agir, c'est l'élève qui va décider de « OK, on va prendre des actions en place. » C'est quelles les actions? Et là, on a un aide professionnel ou parental qui est capable d'être mis en place.
Ouais, j'aime ça. Le témoin, lui, qu'est-ce qui serait son rôle pour aider la personne qui se fait intimider?
Ouais, OK. Ça, c'est extraordinaire. Parce que l'agression, puis la victime, ça va prendre du temps avant qu'elle ait le courage d'aller à l'extérieur chercher de l'aide. C'est pas tout de suite que ça se fait. Ça doit du temps, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois. Ça prend du temps à avoir le courage. C'est pas si évident. Même si on martèle à nos enfants, nos adultes, nos enfants, nos élèves, va voir un prof. C'est pas si évident que ça. Mais les témoins, eux autres, ils voient ça d'un point de vue extérieur, puis ils sont pas émotionnellement investis négativement comme l'élève ou l'enfant, la victime l'est. Fait que si, par exemple, moi, je suis un témoin, puis je vois Marcel intimider Alain. Ben moi, comme témoin, je pourrais me retourner de bord, complètement sortir du scénario, aller en dedans, aller voir un ou une prof, une direction, puis tu dis « Hey, je pense que tu devrais aller voir Alain. Je pense qu'il rit plus comme il riait au début d'année. Il y a du monde qui l'insulte. Il a pas l'air d'aller bien. » Mais si l'aide vient voir la victime, plutôt que de dire aux victimes, va chercher de l'aide, ça va se faire beaucoup mieux. Puis encore là, des fois, c'est juste de dire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça va? Puis juste de créer cette ouverture-là pour créer une confiance à l'élève de si jamais il arrive quelque chose à un moment donné, je suis capable d'aller te voir. Mais ça crée cette ouverture de porte-là ou d'une plateforme auquel l'élève peut aller se confier.
Mais on dirait que je pense à ça puis je me dis comme, disons que moi, je m'ai fait intimider puis mon ami a vu ça puis a été dire à l'enseignant puis l'enseignant vient me parler. Ben peut-être, je dirais comme à mon ami, comme pourquoi ça a été dire à l'enseignant? Donc, comme je serais comme enragé à mon ami d'avoir fait peut-être un extra step que je voulais pas faire.
Puis... peut-être. Puis peut-être que c'est un bon... Si l'ami veut dire, hey, regarde, est-ce que tu veux j'aille voir ou t'aimerais pas ça?
Oui.
C'est bon de lui demander. Puis deuxième chose, la victime n'est pas obligée de savoir que l'ami en question a été voir une direction ou un prof. Tu as juste su que le prof est venu puis il a interagi. Donc l'aide vient d'arriver dans le problème plutôt que dire le problème, va chercher de l'aide. Mais on n'est pas obligé. Tu sais, il y a une confidentialité qui se fait. Évidemment, les directions ne vont pas dire, hey, Joseph, va intimider Chantal, elle vient de dire sur toi. Évidemment, il y a... ça n'existe pas. Une certaine confidentialité. Donc, si le témoin ou la témoin en question ne veut pas que ça se sache, ben, ça ne se sachera pas. Là, t'sais. Mais on peut demander, aussi simple, à la victime, hey, veux-tu que j'en ai un coup de main? Comment t'aimerais-tu que je t'aide?
Ouais. Parce que il y a ça qui est comme le. On va dire, oh, ben, je ne sais pas si il y a un terme plus correct que ça, le crédit social, qu'on va appeler ça, à use que. Disons que le témoin voit ça, puis là, il se tourne contre l'agresseur. Mais lui, il a une peur, une certaine peur de, ou elle, une certaine peur de perdre ce crédit social-là, de dire comme, ah oh ben maintenant, tu me tannes pas, mais là, si je veux essayer de défendre la personne que t'as prêt de tanner, peut-être que là, moi, je me ferai tanner, puis personne veut être la victime de l'agresseur.
Les témoins ont peur qu'ils deviennent des victimes à leur tour. Donc, ils disent, ils font absolument rien. Mais à chaque fois qu'un témoin voit ou entend ou est conscient de quelque chose qui se passe, qui pourrait être peut-être défini comme de l'intimidation, il y a deux choix. Soit qu'il quitte puis qu'il va voir ou qu'il fasse absolument rien. Mais si la personne fait absolument rien, non-verbalement, tu es en train de dire à la victime, ben, prends ce qui te vient, je suis d'accord avec l'événement, le geste, le mot, l'insulte, tu le mérites. Puis tu es en train de dire à l'agresseur, ben, sais-tu quoi, c'est OK ce que tu fais, je suis d'accord avec ça, il y a pas personne qui te voit ici, tu es en sécurité. On est tous d'accord avec toi. Donc, l'agresseur, lui, avec tous les autres témoins qui regardent, s'il n'y a pas personne qui fait rien, il sent vraiment en confiance parce que le nombre d'élèves, tout le monde dans l'école, font rien. Donc, s'ils font rien, ils sont évidemment d'accord avec ce que je fais. Donc, c'est moi et nous contre une personne. Donc, il y a le support social. Mais si tout le monde d'autre dans l'école, à part peut-être l'agresseur et les amis là, proches, si tout le monde d'autre dans l'école, à chaque fois qu'ils voient Marcel en train d'intimider Alain, vont voir la direction, par toutes les fois, la direction vient prendre Marcel, puis il fait pas bien ce que tu fais, puis t'explique, puis bon, tu martèles. À un moment donné, l'agresseur ne sera plus en sécurité parce qu'il réalise que tout le monde dans l'école sont contre lui, parce que toutes les fois que je fais quelque chose de mal, la direction ou le prof va le savoir, puis je vais me faire taper ses doigts. Donc, on veut pas se faire chicaner. Donc, on évite ça. Le danger qui va arriver, c'est que ça arrive au parc, dans l'autobus, tu sais, à un moment donné, quand les gens vont être seuls. Donc, c'est là que ça va être évident que la victime, à ce moment-là, il faut qu'elle recule et il faut qu'elle aille voir aussi la personne. On est, ça l'arrête comme ça.
Parce que là, j'ai deux questions de cette branche-là. J'espère que je m'en rappellerai de la deuxième. La première, c'est que les temps ont changé quand même assez. Et moi, puis toi, je pense qu'on a peut-être exactement la même âge avec une couple de mois de différence, on va dire. Mais comment est-ce que ça a changé dans le temps où ce que. Puis même nous autres, on l'a vu changer. Je me rappelle qu'ils disaient que, comme quand tu vas aller au secondaire, tu vas te faire battre. Au secondaire, on se faisait pas battre. Il n'y a pas de violence physique. Tu sais, l'intimidation était devenue de l'intimidation mentale, on va dire, et non physique. Mais je suis curieux comment est-ce que ça évolue encore aujourd'hui puis comment est-ce que ça se passe dans les écoles parce que la deuxième question a un rapport que je sais que ça, tu sais, l'intimidation, cyber-intimidation
ouais,
existe.
Oui, évidemment.
Mais je suis curieux comment est-ce que ça a changé puis comment est-ce que les réactions des témoins ont changé dans les derniers, tu sais, 20-30 ans.
On s'est fait dire à l'école, quand nous autres, on était jeunes, « Ah, oh, tu vas te faire battre au secondaire. » La raison qu'on se faisait dire ça, c'est que les profs, à l'époque, allaient à l'école, les années 70-60, c'était ça. C'était. On a toute l'image là de la personne avec du tape entre les lunettes qui se fait virer à l'envers avec deux joueurs de football qui se fait rentrer à la tête dans les toilettes. On a toute cette image-là. Mais ça, c'est une image d'intimidation à l'époque. Évidemment, quand nous, on était jeunes, c'était une intimidation qui était intellectuelle, comme tu as dit, ou sociale. Puis là, maintenant, puis tout ce que ça l'a fait, c'est que ben si je me bats, ben à l'époque, les profs ou les directions vont le voir. C'est évident, il y a une bagarre dans le milieu de la cafétéria, dans le milieu de la cour d'école, donc on va intervenir, puis l'agresseur va se faire chicaner ou les deux vont se faire chicaner. Ça va être évident, c'est facile à voir, c'est dans ta face, boum. Puis là, au fil des années, on dit, ben on va juste arrêter de se battre, on va juste faire des rejets. là, on va se repousser ou on va se cacher dans les toilettes, puis il n'y a pas personne qui voit, mais on va avoir des rejets ou on va avoir des noms. Puis il y a quelque chose, il n'y a rien qui est tangible dans le sens que si j'insulte une personne, le prof va pas nécessairement entendre ça parce qu'il y a plein d'autres élèves à regarder. Puis là, c'est rendu un point, ben là, je veux pas dire rien parce qu'il risque de m'entendre. Je vais attendre, puis je vais utiliser un ordinateur ou un téléphone, puis je vais intimider ou je vais insulter la personne comme ça. Il n'y a pas personne qui va me voir. Je suis chez nous, puis il y a encore moins de visuels. Puis ça, c'est comme ironique parce que il y a bien une plateforme où tout le monde voit, c'est bien les réseaux sociaux. Puis là, on dit, ben je me sens, c'est comme une fausse sens de sécurité dans le sens que les élèves se sentent en sécurité chez eux en train d'insulter une personne. Puis on voit ça beaucoup, tu sais, dans les stars, tu sais, les gens qui disent, ben c'est quoi, moi, je lis pas ce qui se fait en ligne parce que il y a beaucoup de hate mail. Les gens, ils se sentent en sécurité. Si mettons que toi, tu recevais du hate mail par rapport à ton podcast, si la personne, si tu savais c'était qui, tu allais la voir, elle sera probablement pas aussi frustrée qu'elle en avant. Elle va dire, ah, ben, je m'excuse, puis je voulais pas vraiment faire ça, puis bon. Mais ils sont beaucoup moins courageux, hein.
Oui.
Ils tournent en mouton plutôt qu'en lion, hein.
C'est comme le monde en arrière qui chauffe dans le char, tu sais. Le monde qui chauffe dans le char va te créer des choses, va t'envoyer le doigt. Mais si tu sors du char, ça va être différent.
Oh, non, oui, c'est oups, excusez-moi, monsieur, puis évidemment, oh, shit, hein, j'ai réveillé un lion. Ça fait. Yeah.
J'aimerais te retourner un peu. J'aimerais que tu me parles du ballon rouge.
Ah oui. Le ballon rouge, là, c'est un peu un exemple que je donne sur comment l'intimidation commence. Parce que quand on, encore, comme j'ai dit tantôt, quand je te dis agresseur-victime, t'as une image dans la tête d'une personne qui est colossale, plus grande qu'eux, qui est intimide ou qui a du pouvoir par-dessus une plus petite personne, plus faible. Là, on a cette image-là. Mais c'est pas nécessairement ça une victime, c'est pas nécessairement ça un agresseur. Selon la théorie, selon la littérature, ça commence entre 3 et 4 ans. Puis on va dire que moi et toi, on est à la garderie à la même âge. Puis on va dire que toi, t'es l'agresseur, Marcel, puis on va dire que moi, je suis la victime. Ça te va, ça?
Oui.
Bon, t'es pas vraiment un agresseur, mais là, on joue le jeu, puis bon.
T'es plus gros physiquement que moi, ça, j'aurais peur, je t'agresserais.
Non, pas mal certain qu'à 4 ans, là, on est capable. Puis ça donne que je suis à la garderie, puis je suis en train de jouer avec un gros ballon rouge. Puis il est hot, le ballon. Puis je suis en train d'avoir du fun avec le plus de fun possible et capable que je suis capable d'avoir avec un ballon. Puis toi, tu vois ça, puis tu dis, « Hey, moi aussi, je veux avoir du fun avec le ballon. » Donc, tu viens me voir, puis tu dis, « Hey, Alain, je peux jouer avec le ballon. » Là, je dis, « Non, je veux pas te dresser. Joue tout seul un jeu avec mon ballon. Laisse-moi tranquille. » Évidemment, toi, tu viens de vivre un rejet. C'est un sentiment négatif. C'est pas le fun, ça. Donc, par mauvaise gestion d'une émotion négative, de frustration peut-être, tu tournes de bord, puis tu me pousses. Là, je tombe par terre, je laisse tomber le ballon. Toi, aussitôt, tu le prends. Je me pose à mon histoire. Évidemment, il y a une éducatrice ou un prof ou un bon qui va voir le geste de violence, puis tu vas te faire chicaner parce qu'on n'a pas le droit de pousser ou de frapper les amis. À date, ça va?
Oui.
Bon, toi, tu viens d'avoir la première réalisation que si jamais tu me pousses ou tu deviens physique, tu vas avoir exactement ce que tu veux, puis tu n'auras pas à avoir la réponse non, tu n'auras pas à vivre du rejet. Tu vas te faire chicaner, mais ça dérange pas qu'est-ce qui te fait chicaner. Toi, tu viens de comprendre que si je pousse, je peux l'avoir, puis le non n'existe pas. J'avance plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine, je me retrouve encore à jouer avec mon ballon rouge, j'ai le fun bleu ou noir, bon. Puis toi, tu reviens me voir, tu dis, Alain, est-ce que je peux jouer avec le ballon? Moi, je me rappelle qu'est-ce que tu as fait la dernière fois. Je me rappelle que tu m'as fait mal. De peur que tu me fais mal à nouveau, je te donne mon ballon, je te dis, Marcel, c'est quoi? Tu peux jouer avec, j'ai fini, va-t'en. C'est pas parce que vraiment j'avais fini, je veux juste eu peur de toi, puis je veux pas me refaire pousser de nouveau. Toi, tu viens comme agresseur, tu viens de comprendre la deuxième chose. Que si tu arrives à infliger une peur envers une personne, tu vas avoir exactement ce que tu veux, puis tu te feras pas chicaner parce que tu n'as pas eu à avoir à pousser ou à frapper quelqu'un d'autre pour avoir ce que tu voulais, qui est ultimement le ballon rouge. Donc, l'intimidation, évidemment, ça commence très jeune. Ça commence avec la compréhension de si je peux avoir quelqu'un qui a peur de moi, je vais jamais ressentir un rejet, donc je vais me faire sentir confiant en moi-même.
J'adore vraiment cet exemple-là du ballon parce qu'on dirait que ça le visualise. Puis il y a quelque chose que j'aime de ça aussi, c'est que on dirait que, pas qu'il y a une sympathie pour l'agresseur, mais je trouve qu'il peut avoir, on peut comprendre l'agresseur ou ce que l'agresseur, il a vécu le rejet, lui, qui est quand même une tu sais, c'est pas l'intimidation, mais c'est un sentiment, un mauvais sentiment. Puis je pense que comme, à la fin, il y a vraiment beaucoup de l'intimidation qui se ressort de ces mauvais sentiments-là. Puis, je suis curieux si il y a un effort qui est fait pour essayer de plus comprendre ça, puis de peut-être apporter comme une solution à ça.
Ben, OK. La compréhension, évidemment, c'est ce que j'essaie de faire par l'entremise des conférences. Hein. C'est ça le but, de comprendre un peu le côté de l'agresseur, comment lui ou elle se ressent par rapport à un même fléau social. Donc, on se bat sur des sentiments, qui a ressenti quoi par rapport
oui,
à...
Ouais.
Tu sais, bon. Comment on fait? OK. L'affaire, c'est que on veut tout avoir confiance en nous-mêmes, toute la gang.
Oui.
On cherche tout à avoir une confiance. Et puis, comme j'ai dit tantôt, quand on a des avenues comme enfant, qu'on sait, hey, moi, si je fais ça, je peux avoir confiance en moi-même, je vais les prendre. Si tu ne donnes pas ces avenues-là à les enfants, ils vont trouver des chemins par eux-mêmes pour être capables d'aller chercher une confiance. Et ça, c'est pas nécessairement positif comme chemin, mais c'en est un. La seule chose que, dans mon exemple du ballon rouge, la seule chose que Marcel, qui était l'agresseur, voulait, c'est d'avoir confiance en lui-même ou ne pas ressentir de rejet. C'est juste l'un ou l'autre. On parle de la même chose. Donc, ne pas vouloir ressentir du rejet, ce qu'il faisait, c'est qu'il poussait, puis là, il sort soudainement, il n'y avait pas le rejet, puis il sentait confiance en lui ou elle-même. Donc, on veut tout avoir confiance en nous-mêmes, puis des fois, c'est pas des bonnes avenues, puis ça laisse des marques envers une autre personne. Mais ça, quand on est à 3-4 ans, on réalise pas ça. Même comme adulte, des fois, on réalise pas ça. T'sais, l'empathie, la sympathie sont des sentiments qui viennent très tard dans le développement émotionnel. Donc, de comprendre et de voir qu'une autre personne peut vivre un sentiment complètement différent du mien par rapport à une même situation, c'est difficile. Donc, la façon qu'on fait pour s'en sortir, c'est faut montrer à nos élèves et à nos enfants, pour leur donner des chemins auxquels ils peuvent aller chercher une confiance qui est positive plutôt que aller voler le ballon d'un ami.
Ouais, mais j'adore ça parce que comme, on dirait, la question on se pose peut-être moins souvent, c'est comme, il y a des bons parents qui ont des élèves qui intimident les autres, puis de savoir comment régler ça, et pas nécessairement de les descendre. Parce que les descendre va peut-être encore plus long. Ben, je sais pas, j'assume, j'ai après de casser. Ben, si tu le descends, t'es après de baisser sa confiance, puis il est après intimider pour essayer de monter sa confiance.
Mais une personne qui est confiante en elle-même va pas aller nécessairement aller rechercher socialement ou en ayant écrasé les autres, parce qu'il y en a d'autres. Hein, il est déjà confiant. Tu sais, si tu vas dans une école, puis tu parles à la personne qui, par exemple, joue du hockey, qui est le capitaine de son équipe, tu as plein de bonnes notes, tu as plein d'amis, il y a une présence parentale positive. Peut-être qu'il va aller le faire, mais il va être bien plus capable de comprendre que la façon que tu es chercheuse de confiance est négative, puis il est capable d'aller en chercher autre. Il faut que tu apprennes à ton enfant d'être un leader positif ou un leader négatif. Hein? C'est un peu la différence entre les deux. Donc, il est beaucoup plus facilement que la victime la personne ou l'élève qui a pas beaucoup d'amis, qui fait pas des bonnes notes à l'école, qui fait pas du sport. Il n'y a pas vraiment de talent qui est exploité. Il y a du talent, mais il n'est pas exploité de façon active, qu'il n'y a pas nécessairement d'autres chemins. Lui ou elle, tu l'insultes, va avoir un impact beaucoup plus négatif que la personne qui est confiante en elle-même ou lui-même. Donc, on est la raison, la façon qu'on fait pour arrêter nos enfants d'aller intimider les autres, c'est en leur donnant des avenues pour aller chercher une confiance autre que la façon qu'il fait là. Puis, comment bon ou pas bon parent, évidemment, là, je t'ai dit tantôt, Marcel, je suis un jeune papa. Je commence pas à dire que j'ai la vérité infuse. Là. Je suis encore en train d'apprendre là, dans le processus, moi aussi. Mais ce que je définis comme bon ou bonne maman ou bon papa, c'est une présence parentale positive. J'ai déjà vu un podcast ou une entrevue à un moment donné, puis il dit, comme père, là je le dis comme père parce que la personne disait comme père, mais la seule chose que tu as besoin, c'est en anglais, c'était « you just need to show up ». Si tu es capable d'être présent, puis donner une attention positive avec tes enfants, de vivre des moments autres qu'un questionnaire. Parce que, tu sais, si mettons que j'arrive à la maison, après une grosse journée de travail, j'ai une frustration, je suis fatigué comme tout le monde. Puis je regarde mon enfant qui fait pas bien, il dit, bon, je commence avec le questionnaire. Il va pas nécessairement commencer à s'ouvrir. Mais, par exemple, si ton enfant, je parlais de l'exemple du karaté. Imagine-toi si mon enfant commence à faire du karaté, si moi, je commençais moi aussi à faire du karaté. Puis après ça, on pourrait en parler en allant ou en revenant où, tu sais, il y a un dénominateur commun où les deux ont la même attention ou font la même chose. Ben ça, ça crée des plateformes où les enfants et les parents peuvent s'ouvrir. Tu sais, moi, à l'époque, je sais pas si on est de la même génération, je sais pas si tu faisais ça. Quand j'étais jeune, je collectionnais des cartes de hockey.
Okay,
j'ai jamais vraiment joué. J'ai joué au hockey un an ou deux, là, tu sais, genre première, deuxième année. J'étais pas jamais de la vie que je dirais que je suis un joueur de hockey. Vraiment loin. Je patine là, comme Bambi là, qui vient de dire ah ouais, je.
Si tu les as sauvés, ça a l'air que ça après de revenir, là, ça vaut peut-être l'argent.
Je sais. j'ai tellement envie de recommencer à collectionner. Là, c'est un autre sujet, un autre tantôt. Mais bon, mais à l'époque, mon père collectionnait des cartes avec moi. Mais il aimait pas nécessairement ça, le hockey, encore moins collectionner des cartes. Mais il allait s'en acheter lui aussi. Puis là, on s'assoyait sur mon lit. Bon, puis là, on les mettait dans un cartable, puis on checkait les séries. Puis bon, puis à la fin de tout ça, c'est moi qui les ai toutes gardées. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une plateforme auquel il était capable d'avoir un moment où il passait du temps. Il était présent. Puis ça, ça fait en sorte que si j'avais quelque chose à lui dire, c'est ces moments-là que je vais prendre pour aller lui parler. C'est ces moments, c'est pas le questionnaire qui fait en sorte que je vais vouloir y parler. C'est ces moments de qualité-là. Donc, il y a une étude qui est servie aux États-Unis qui disait, ça prend, je vais dire 12 minutes, OK? Mais je vais dire 20, là, mais je pense que c'est 12. Ça prend 20 minutes de présence parentale positive envers ton enfant pour créer un lien d'attachement ou un lien de confiance. Puis, aux États-Unis, à l'époque où j'ai lu l'article, c'était moins de 2 minutes par jour que ça se faisait. C'est 20 minutes par jour. Je vais dire 20 parce que je me dis 20 minutes de ta journée. T'as pas besoin de travailler vraiment fort pour trouver un 20 minutes de ta journée pour être capable de passer du temps. C'est pas, comme je dis, c'est pas un questionnaire, là. Je parle pas de comment ça va à l'école ou, ça se fait autour d'une table. Mais de discuter de autre chose. Humanise le parent. Puis après ça, tu vas créer, bon.
J'aime vraiment ça. C'est de penser à comment est-ce que, tu sais, tu parlais du gars qui joue au hockey ou la fille qui est sportive ou la fille qui est populaire. On dirait, c'est souvent ce monde-là qu'on envisage des fois qui intimide les autres parce que c'est comme le lion qui va après la proie. Mais j'ai jamais trop pensé qu'il y en a qui le font puis il y en a qui le font pas. Puis la différence, c'est peut-être que même les gens qu'on pense qui sont super populaires puis qui ont tout, ils struggle avec de quoi? Il y a quelque chose qui ont de la difficulté avec puis peut-être qu'il y a un manque de confiance aussi puis que ça peut vraiment être ça qui est la raison qui fait que elle essaie de remplir ce
vide-là. Absolument. Absolument.
Je trouve ça super intéressant. C'est la première fois que j'attends vraiment parler de ça puis que je trouve que l'idée est quelque chose que je vais continuer à penser. Je suis curieux si on revient à ma deuxième question de le cyber-intimidation puis où est-ce que, tu sais, que ça continue. Ben, au moins, nous autres, quand on avait fini l'école, c'était souvent fini. C'est certain que c'était pas fini dans notre tête. On allait quand même en penser beaucoup, mais on avait une sécurité à la maison où est-ce qu'on avait de la paix. Maintenant, ça existe moins. Comment est-ce que ça joue un rôle, ça? Puis, qu'est-ce qui est fait pour essayer de peut-être limiter ça ou changer les choses dessus, ce volet-là?
Évidemment, parce qu'une victime qui vit l'intimidation sur l'Internet, il pense que sa plateforme est vue par le monde dans son entier. Versus nous, quand on était à l'école, on avait une plateforme qui était vue par les élèves de l'école ou les enfants au parc. Ça se limite à quelques personnes, quelques dizaines, quelques centaines, ça finit là. Mais pour une victime qui vit l'intimidation en ligne, il voit, tout le monde peut le voir. Tu sais, il y a vraiment un sentiment de réconfort envers l'agresseur qui dit, ben regarde, il n'y a pas personne qui dit rien, donc tout le monde sont avec moi, donc contre la victime, donc je me sens en confiance, je me sens en pouvoir. Puis la victime se dit, aïe, tout le monde sont contre moi, je suis vraiment ça. Donc ça, c'est le dangereux, c'est qu'on commence à se définir comme ça. Tu sais, si je me fais dire, t'es gros, t'es laid, tu pues, t'es dans le croche, t'es pas bon en maths, au début, tu le repousses, tu sais. Mais à un moment donné, la seule personne que tu vas voir dans le miroir, c'est une personne qui est grosse, qui est laide, qui pue, qui est pas bonne en maths, puis ainsi de suite. Tu reviens par devenir cette personne-là. Mais là, en ligne, t'as cette personne que t'as un plus grand éventail de témoins qui sont, tu sais, actifs et probablement passifs parce qu'il y a pas personne qui dit rien. Mais on a ce faux support social-là pour l'agresseur parce qu'il y a pas personne qui dit rien. Tu sais, la beauté avec, comme tu dis, la beauté avec les réseaux sociaux, c'est tu peux faire des screenshots, tu peux enregistrer tout. Fait que la journée où la victime se dit « Non, c'est quoi, je veux faire quelque chose puis je veux en parler à quelqu'un », peut arriver avec des feuilles ou des enregistrements de conversations, dit « Garde, voici ce qui se passe ». Mais là, on a du poids parce que je peux plus me cacher en arrière de « Non, c'est pas ça que j'ai dit. Hein? » La victime détourne la situation. Parce que on veut pas, il y a pas personne qui veut se voir comme un agresseur. Moi, l'agresseur qui intimide en ligne veut peut-être juste avoir confiance en lui-même, puis veut être populaire aussi ou veut se sentir bien. Donc, j'intimide la victime. Mais là, tout d'un coup, quand j'arrive avec des papiers, je me dis « Ah non, shit, je peux plus dire non, c'est pas ça que j'ai dit. » C'est « Ah non, c'est écrit là, qu'est-ce que tu voulais dire? » Donc, on est un peu mis au pied du mur avec le fait, puis on peut pas nier ce qui a été dit ou ce qui a été fait, ce qui a été écrit, je veux dire.
OK. Alors, c'est comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça, tu sais, c'est certain que ça arrive, mais comment est-ce que ça joue en jeu, ça? Est-ce que les jeunes ont peur d'utiliser cette évidence-là pour dire comme « Garde, c'est ça que c'est » ou que le monde commence à être plus ouvert? Comme moi, j'ai eu un hate mail une fois, puis le gars m'a vraiment envoyé. C'était drôle parce que c'était pas constructif en tweet. Il a dit que j'avais une face de mongol, puis j'étais comme, all right. So moi, j'ai pris ce commentaire-là, puis je l'ai copié, puis je l'ai posté sur Facebook, puis j'étais comme, ha, 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 comme j'ai trouvé ça drôle. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Il y a une partie que c'est certain qu'il y a personne qui veut se faire dire. Par contre, il me disait que j'étais courageux de lâcher mon job pour essayer de me faire une vie de les heures à parler de la radio et des choses comme ça, mais comme ça, c'est plate. comme, je me dis, comme, avec son commentaire après, j'ai pu facilement rire de ça. Puis, ça qui est intéressant, c'est quoi ce que j'ai pris, puis je l'ai posté sur Facebook. J'ai eu plein d'amour que ça fait retourner par moi. So, j'ai pris cette haine-là. Puis, je l'ai mis sur Facebook, puis là, il y a plein d'amour qui m'a fait retourner. Puis, c'est plate parce que c'est pas ça que je cherchais. Je cherchais pas ça. Je cherchais à rire. Moi, c'était une joke. Puis, le monde a été super supportif. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comment est-ce que ça a déroulé comme juste expérience personnelle pour moi-même. Parce que comme, il y a une partie de moi qui j'étais comme, OK, ben, je voulais pas jouer la victime ici. Là, je voulais juste rire de la personne qui est après d'essayer de rire de moi. Puis, peut-être de manière que je m'ai défendu contre ça aussi. Parce que je me dis, si je peux rire de ça, ben, then, ça, je m'ai pas fait attaquer. Je suis pas une victime. Alors, j'ai trouvé ça drôle.
C'est ça. T'as vécu de l'intimidation, mais t'as pas été une victime. Tu t'es pas laissé atteindre. Le commentaire ne t'a pas défini négativement. T'as pas changé. T'as peut-être eu un petit laps de temps que tu y as pensé, tu dis, ah, c'est plate. T'as réfléchi, mais t'as retourné ça de bord tout de suite. Puis t'as été recherché une confiance en toi-même. Parce que c'est certain qu'en mettant ces réseaux sociaux, tu sentais, peu importe c'est quoi les sentiments, tu sentais définitivement mieux après qu'avant, right?
Oui, ouais, parce que au moins je me disais qu'il me haït assez pour m'envoyer un message. Puis des fois, c'est meilleur que la nonchalance, ça. Mais on y a pas des mauvais messages parce que je suis quand même super sensible. Moi, j'ai de la misère à prendre une joke pour quelqu'un qui a fait du stand-up. Puis j'ai vraiment envoyé des jokes après du monde que j'aurais vraiment pas dû. Puis je sais pas pourquoi je l'ai fait. On dirait, looking back, tu dis comme pourquoi j'étais méchant de même. Mais c'était comme une joke, mais à la fin, je me dis comme si chacun ferait cette joke-là, moi, peut-être que je prendrais pas ça bien, puis c'est plate. Ça, c'est une réalisation qui est pas le fun à voir, là, de réaliser que j'ai été méchant, que si quelqu'un aurait été méchant comme ça à moi, j'aurais pas aimé ça. C'est comme, c'est plate, là, tu te dis comme, well, si tu veux le déchet out, il faut que tu le prennes aussi. Il y a du monde qui a de la fun à faire ça, puis c'est correct. Mais c'est drôle comment est-ce que, tu sais, que des fois, on le sait pas, tu sais, on le fait sans le savoir, puis on pense que c'est des jokes, mais c'est pas des jokes, mais...
Ça fait pas nécessairement toi un agresseur, tu recherchais, évidemment, puis là, tu le réalises, là, tu dis, oh non, je pense que la personne qui a reçu cette joke-là n'a définitivement pas vécu l'émotion que moi, j'ai ressentie quand je l'ai donnée.
Ouais.
Donc là, tu réalises, ah, bon, puis comme agresseur, qu'est-ce... Oh, ben là, je te définis comme un agresseur, comme personne qui a, non, tu sais, non consciemment, peut-être, été je parle de l'agression.
Non, je l'étais. J'étais, à ce moment-là, j'étais un agresseur, mais au moins, j'espère que j'ai pu apprendre de ce moment-là. Au moins j'ai la réflexion d'apprendre de ça, puis de être comme, OK, c'est pas correct, faut que j'arrête de faire ça.
Tu sais, si, mettons, là, mettons que c'était envers moi le commentaire, tu dis, ah, Alain, oui. Il est ça. Puis tu dis, ah, shit, il y a 2, 3, 10 ans après, tu dis, ah, man, j'ai dit ça, puis je fais le mal. Qu'est-ce qui aurait arrivé si tu me rappelles ou tu reprends contact avec moi, tu dis, hey Alain, tu te rappelles-tu cette situation-là? J'y pense régulièrement. Je fais vraiment mal envers moi-même. J'espère que je t'ai pas trop blessé. Je réalise que j'ai eu un plaisir un peu à ton insu ou tu sais sur ton dos. J'espère que j'ai pas créé une émotion négative. Je m'excuse. Est-ce que tu penses que ça va ressentir la personne qui a reçu ce hate-là? Va ressentir mieux après que tu as dit, hey, je réalise ce que j'ai fait, je m'excuse, j'espère que tu es capable de trouver une petite place dans ton cœur pour me pardonner. Parce que ça va lui faire du bien.
Probablement, ben, moi, juste que c'est awkward de faire de quoi de même.
Oh, ça prend du gars, c'est incroyable. Je te dis, ça prend le monde de courage. Mais ben, si jamais tu le fais, le pire moment, ça va être de prendre la décision puis d'aller jusqu'à la personne puis le faire. Après ça, là, tu vas sentir un velours en dedans de toi. L'agresseur que je parle dans mon histoire, j'en ai eu quelques-uns durant là, l'évolution de ma jeunesse, là, mais le principal, j'en ai une image de cet agresseur-là. Puis, dans mon histoire, je l'appelle Adam. C'est pas Adam son nom, mais à mes 10e anniversaire de graduation, là, j'ai retourné dans, évidemment, là, je suis allé dans un, c'était une espèce de bar, là, où on allait, que tout le monde de la même cohorte, on graduait en même temps, là, là-bas. Puis, j'ai revu mon Adam. Puis, il est venu me voir, puis il disait, hey, Alain, est-ce qu'on peut se parler? J'ai dit, pas de problème. Donc, on est allé d'un coin tranquille. Puis, il m'a dit, hey, à peu près les mêmes mots que je t'ai dit, sais-tu quoi? J'ai réalisé que j'ai littéralement, puis là, c'est les mots que tu disais, j'ai été un truc de cul avec toi quand j'étais jeune. Je voulais juste vraiment avoir du fun. Clairement, je savais pas comment avoir du fun. Moi, je te considérais comme un ami. Je suis pas sûr si toi, tu pourrais dire la même chose de moi aujourd'hui. Un peu, tu dis, c'est plate que ça prenne tout ce temps-là à réaliser. Lui, cette personne-là, ça lui a pris, je veux dire, au moins l'équivalence de 10 ans après la graduation de le réaliser. Puis il dit, est-ce que tu me pardonnes? J'y pense régulièrement, je me sens mal. Puis je lui ai donné ses pardons. Pas nécessairement pour lui, mais pour moi. Certain que lui s'est senti bien par rapport à, tu sais, de dire, regarde, je réalise ce que j'ai fait, je regrette, je m'excuse. Juste ça fait partie du processus du tu sais là d'acceptation en soi-même puis bon, mais moi comme victime, j'ai donné ses pardons mais plus pour moi parce que dans ma tête, moi ce qui s'est passé c'est je me suis dit je le savais. Je me trouvais cave, je m'haïssais à ce moment-là parce que je me disais je t'ai cru. Puis je savais que j'étais pas cette personne-là. Je savais que je méritais pas de me faire traiter comme ça. Je savais que j'étais pas une victime. Tu sais, je méritais pas de me faire traiter comme une victime comme tu l'as fait. Mais on dirait que notre petite voix intérieure, j'étais pas capable de l'écouter. Tu sais, quand on est jeune, on a toute une petite voix intérieure. Ouais. Quand on, je veux dire jeunesse, là, sous 30 ans. Après 30 ans, okay, ça commence à venir, t'es vieux, t'as des REER, t'as des studies, t'as des assurances. La vie est plate. Mais avant 20 ans, avant 30 ans, on dirait que tu te cherches à te définir comme personne. Quand tout le monde te dit, ben, t'es gros, comme j'ai dit tantôt, t'es gros, t'es laid, tu pues, ben, tu finis par devenir cette personne-là. Puis moi, quand le Adam est venu s'excuser, c'était un moment très charnière. C'est comme si j'avais eu la réalisation, t'as raison, t'as fait quelque chose de mal, j'ai raison, j'étais pas cette personne-là, j'avais pas d'affaire à me faire traiter comme ça, donc j'étais capable de me concentrer sur moi-même. C'est comme si j'avais viré mes yeux par l'intérieur de moi-même, puis j'avais commencé à découvrir le vrai Alain. C'est bizarre à dire, mais c'est là que j'ai réalisé que j'avais une voix intérieure, puis que j'étais une personne complètement, une entité entière, hors ce que lui disait que j'étais, ou ce qu'il faisait, ou ce qu'il, tu sais, j'étais quelqu'un d'autre. C'était pas vrai, il savait pas c'était qui Alain Pelletier. Il y a moi qui sais c'était qui Alain Pelletier. Fait quand il a dit ça, j'ai dit merci, je te pardonne, puis c'est comme si j'avais lâché, là, genre, un sac de briques. Et chacune des briques, c'était, tu sais, un mauvais compliment, ou, je veux dire, une insulte, évidemment, ou un jeu qui était pas fun, ou quelque chose qui était négatif tiré envers moi. Quand j'ai fait ça, je disais, ah, finalement, j'ai pu redécouvrir. Puis là, évidemment, je suis la personne que j'ai pu devenir suite à cet événement-là. Mais moi, ça a été très charnière de dire, ah, je suis capable d'être, je suis une autre personne complètement différente. Donc, on va essayer de découvrir c'est qui cette personne-là. Mais ça, c'est pas à 4 ans que tu réalises que tu as un dialogue intérieur, tu sais.
Non, puis j'ai curieux comment est-ce que, à la fin, ça dépend de peut-être l'amplitude de l'intimidation qui se passait avec Adam, mais c'était difficile de le pardonner. Comme moi, je suis rancunier un peu, je me demande si ça serait facile de le faire, puis si que je pourrais oublier tous ces sentiments-là que j'ai eus par rapport à ça, parce que c'est quand même...
Ouais, c'est gros. Quand tu m'as posé la question, ma première idée, ça a été oui. Ça a été facile parce que je me trouve niaiseux pour t'avoir cru. Tout ce temps-là, on dirait que je le savais que j'étais pas ça, puis je méritais pas de me faire traiter comme ça. Puis on dirait que je le savais, mais je le réalisais pas que je le savais. Puis je me dis, ah, c'est peut-être l'ignorance ou t'sais, la jeunesse ou t'sais, il y a juste un paquet de choses peut-être, mais je le savais, je réalisais pas que je le savais. Puis je me suis dit, ah, mon Dieu, je t'ai cru. Une chance que tu es venu me voir, puis une chance que j'ai eu cette réalisation-là. Là, j'ai peut-être perdu un peu de temps, mais là, je suis capable de mettre les bouchées doubles puis concentrer sur moi plutôt que concentrer sur tout ce que les gens disent de moi plutôt que le contraire.
OK.
Ouais, c'est que je veux dire, c'était facile. Puis je peux comprendre, t'es rancunier envers, tu dis, ah, mon Dieu, tu m'as tellement fait mal, j'en veux pour le restant. Mais quand tu tiens une rancune, on dirait que t'as pas vraiment pardonné. Tu sais, si on fait, on parle de pardon, vraiment, c'est OK, j'ai coupé littéralement un sentiment puis je l'ai donné à la personne. Puis je m'en défais complètement, un peu comme une partie de mon corps que je laisse aller. Là, c'était un peu un... pas facile à faire, évidemment.
C'est pour ça que j'étais curieux du processus, parce que comme j'ai dit, ça dépend certainement de l'amplitude de ça, de comment est-ce que ça t'a affecté. Ben, ça semble que ça t'a affecté grandement, puis t'as pu le laisser aller, puis c'est certain, là, 100% sûr, tous les psychologues te diront, c'est ça, faut que tu fasses, mais de savoir quoi t'as besoin de faire, puis de vraiment le faire, de vraiment pouvoir pardonner, I mean, ça pourrait peut-être être un épisode, un plein épisode par lui-même, à parler du pardon, puis comment vraiment pardonner, mais je trouve ça beau. J'ai rencontré quelqu'un une fois, on était à un mariage, puis il m'a parlé, il me reconnaissait, puis j'ai parlé avec lui, puis je pensais, je m'en rappelais pas beaucoup de lui, j'ai vraiment de la misère à m'en rappeler du monde à l'école, but, puis je pensais comme la seule affaire que je m'en rappelais vraiment de lui, c'était kind of comme, je feel que j'étais pas super nice avec toi quand j'étais jeune, puis pas que j'aurais été comme vraiment méchant, but comme on dirait que c'était quelqu'un qui voulait comme hang around les autres, but il était plus jeune, puis on l'excluait parce que ça nous intéressait pas de hang out avec quelqu'un plus jeune. Mais c'est comme, c'est le feeling, je me rappelais pas de lui, mais je me rappelais un peu de ce feeling-là. Puis c'est ça qui est intéressant de comment est-ce que comme, tu sais, j'aurais voulu en parler, mais j'ai pas dit, je pense comme, ouais, t'as sombre, que t'as des bonnes mémoires de moi, je vais pas ruiner ça à penser que, te dire que c'était non. Mais c'est intéressant de, tu sais, la perception des choses peut être tellement différente d'une personne à l'autre aussi.
Tu sais, quelle conversation positive ou enrichissante aurais-tu eu si, parce que tu l'as même dit tantôt, ça prend excessivement beaucoup de courage à être d'abord de ça, puis de se dire, hey, c'est quoi, j'ai été méchant, j'ai été un agresseur. Ça prend une grosse définition personnelle, puis un gros jeu bien compris là, pour être capable de faire ça. Mais quelle conversation intéressante aurais-tu pu avoir avec cette personne-là si tu avais dit, hey, regarde, toi, comment t'as vu ça? Puis peut-être que tu sais, là, t'as dit, ah, il semble être correct, puis pas. Mais, tu sais, si t'avais validé ça, il aurait peut-être dit, ah, tu sais, les gens qui, là, je vais pas rentrer là-dedans nécessairement, mais les gens qui s'enlèvent la vie, puis ils disent, ben, je l'ai jamais vu venir. Ben, tu sais, ils ont l'air à être corrects, ils ont l'air à être souriants, ils ont l'air à être OK, mais dans le fond, ils se cachent en arrière d'un masque. Tu sais, la face, on veut tous passer ces réseaux sociaux, la face de la dépression, ça ressemble à ça, puis là, on a les Robin Williams, puis tout ça, tu sais, les gens qui se font, là, tu dis, aïe, ça frappe, parce que c'était des icônes de, tu sais, de l'humour, puis des gens qu'on voyait comme étant les plus heureux sur la planète quand ils se mettaient en arrière d'un masque. Donc, si tu avais eu cette conversation avec la personne, comment enrichissant que ça l'aurait eu? Puis, il aurait probablement pas dit, non, Marcel, je taillis la face. Il aurait probablement pas dit ça. Il aurait peut-être dit, eh non, tout est correct, je me rappelle pas toi de même. Ou il aurait peut-être dit, ah non, c'est quoi, moi, je me rappelle un peu, mais quelle sorte de sentiment positif aurait sorti de là envers toi et envers lui, tu penses?
Je pense que vraiment, honnêtement, c'est 100% correct, là, comme logiquement, je le sais, puis à le faire, c'est plus difficile, mais c'est ça qui est intéressant, puis je le vois de plus en plus à vieillir, de s'ouvrir, de gars à gars, de se parler de les vraies choses. On dirait que c'est des affaires que je fais de plus en plus, que j'aurais pas fait plus jeune. Les conversations qui sortent de ça sont vraiment incroyables. Comme il y a une partie de comme, je pense que comme on a grandi d'une époque qui était peut-être en transition à ce que les hommes, on parle pas de la manière qu'on file. Ouais. Puis ça a resté comme quand même assez que j'ai grandi là-dedans, tu le ressens quand même si tu sais que c'est mieux. Mais le plus que je m'ouvre, le mieux que les conversations sont, comme j'ai des conversations avec le monde que je suis comme holy cow, comme ça c'était vraiment comme tu le feel que tu as eu une connexion, puis ça mène à des si belles places de être ouvert de les émotions qu'on sent, puis des choses comme ça. Alors c'est certain que je vois vraiment un bénéfice de faire des choses comme ça, puis que j'espère que ça serait le fun que si cette conversation ici pourrait encourager une personne qui écoute à
aller voir quelque chose. Oui, dire à quelqu'un, hey, dis quoi, j'ai vraiment été pas fin cette journée-là, tu me demandes pardon, je regrette, hein. Ça serait off. Mais tu sais, la raison qu'on a peur, c'est qu'on veut pas se voir comme étant le méchant. On cherche tout, comme j'ai dit tantôt, on cherche tout à avoir confiance en nous-mêmes. Ça, avoir le guts ou le courage d'aller voir, tu ressens pas la confiance en toi-même. Tu dis, ah, j'ai honte, là, présentement, j'ai le sentiment de me cacher. Mais quand on met ce sentiment-là, cette situation-là, à la vue de tout le monde, puis regarde, on va en jaser, puis il y a que du positif toujours, mais ça prend une grande personne qui se définit bien comme personne. Tu sais, ça prend une réalisation. Il apprend quelqu'un qui est pas confiant envers lui-même, mais tu sais, qui est mature émotionnellement, qui comprend un peu une intelligence émotionnelle derrière de ça. Ça prend cette personne-là de le réaliser, puis d'avoir un step back, de dire, regarde, on va parler de la situation plutôt que moi versus toi, là, tu sais. Puis quelle sorte d'image que tu penses que cette personne-là va avoir de toi suite à cette conversation-là? Il va vraiment se rappeler de toi quelque chose de positif pour le restant de ses jours.
Bien sûr. Tu sais, on après de frôler la quarantaine puis qu'on a ces réalisations-là, comment est-ce que ça se passe? Tu sais, il y a quelqu'un qui a 15 ans, comme nous autres, on trouve ça difficile à faire, c'était pas là. Quelqu'un qui a 15 ans, qui n'a pas encore eu ce wealth d'informations-là, comment est-ce que tu les encourages à rentrer dans ce mindset-là?
Merci pour la question, c'est extra. Merci. J'espère que je vais être bon à répondre à cette question-là. Quand on voit nos parents, quand on est justement 12-15 ans, on voit nos parents, l'image que j'ai en tête, c'est un policier. Parce que le policier, c'est lui qui met les règlements. Si, mettons, tu es en train de conduire sur l'autoroute, puis tu te fais arrêter par là, mais tu obéis les règlements, tu roules à la bonne vitesse, tu fais tout. Puis lui, le policier, il veut juste faire un check-up. Tu sais, juste parce qu'il y a rien à faire, il décide de allumer tes lumières, puis juste dire allô, puis checker si tout est conforme. Tu sais, ça pourrait, là. Puis comment tu vas te sentir si tu te fais arrêter par la police, même si tu n'as rien fait de mal?
Ah, c'est pas le fun. Il y a zéro qui est le fun de ça.
Tu vas te questionner, tu vas dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas commencer. C'est pas un sentiment positif. Puis là, il dit juste, hey, c'est-tu quoi? Je voulais juste te checker, te dire allô, tu fais bien ça, good job, puis on your way, off you go. Comment tu vas te sentir après? Tu vas dire, oh, phew, c'était juste un warning. Mais là, le restant de la route, tu sais, si tu roules encore 2-3 heures, tu speederas pas. Tu vas mettre le cruise à la bonne vitesse, puis tu vas tenir les fesses serrées, hein, parce que j'en ai échappé une. Ça a bien été. Bon, quand on est un enfant ou un adolescent, on voit un peu nos parents comme ça parce que c'est eux autres qui donnent et qui font en sorte que les règlements sont respectés. Mais si, mettons, je fais quelque chose de mal comme enfant, puis je me fais pas nécessairement chicaner. Il y a bien des fois que nos enfants, nos élèves, ils font quelque chose de mal, mais ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. T'sais, ils se cachent, ils savent que c'est pas bien. Mais s'il y avait eu un warning, peut-être que, oh, je suis correct, je l'ai appris, le message va passer. Il n'y a pas nécessairement d'avoir une punition à toutes les fois. Des fois, juste un warning, ça fait la job. Je pense encore que mes enfants sont trop jeunes, mais il y a quelque chose que j'aimerais faire plus tard, c'est j'aimerais avoir un cerceau. Puis le cerceau, j'appelle ça le cerceau de... juste de l'honnêteté. Juste d'avoir un cerceau dans le milieu du salon, puis bon, puis peu importe ce que mes enfants vont vouloir me dire, s'ils me le disent dans le cerceau, il va avoir aucune répercussion, il n'y a pas de conséquences négatives, ils ne peuvent pas se faire chicaner. Ça, ça fait deux choses. Un, ça va faire en sorte que l'enfant va vouloir te parler, puis il va avoir la confiance que ça va juste être un warning, qu'ils ne seront pas chicanés pour quelque chose, donc on va se sentir bien. Puis deux, ça va faire en sorte que l'élève va auto-réaliser « Ah non, j'ai fait quelque chose de mal. » Des fois, quand on est un enfant, je l'ai fait par impulsivité. Tu sais, je suis impulsif, je l'ai fait. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Donc, je m'excuse, mais si je prends un cerceau puis je m'excuse à papa ou maman, je me ferai pas chicaner puis ça va être correct. Donc, la personne va auto-réaliser « Ah non, ça c'est bien, puis ça c'est mal. » Ce qui va dire « Le jeu est pas bien, le jeu est pas mal, mais il y aura pas de sanctions, il y aura pas de répercussions. » Mais il est pas obligé d'avoir une chicane à toutes les fois. Donc, l'enfant de 15 ans, comment on fait pour faire en sorte qui veulent venir nous parler, c'est si on est capable de faire en sorte que le parent est moins comme un police et plus comme un allié qui on travaille ensemble pour faire respecter les règlements. OK, si mettons tu te fais arrêter par la police puis tu roules trop vite. Puis moi, j'ai trouvé la recette parfaite pour pas avoir de ticket. Veux-tu l'entendre?
Oui, ben oui, conte-nous ça.
Parce que ça l'est arrivé genre un an passé. Je roulais, je m'emmenais de Gatineau, puis je fais, évidemment, tu comprends, je suis toujours sur la route, donc je fais extrêmement beaucoup de voitures. Puis, je roulais trop vite, puis je dépassais une vanne, c'est Claire qui m'a poigné. Puis, la minute que j'ai dépassé le policier de l'autre côté, il a allumé ses feux. Je le savais que je roulais trop vite. Je le sais. Fait qu'au minute que j'ai vu ça, je me suis mis sur le côté. Fait que par le temps que le policier tourne de bord, j'étais déjà arrêté sur le côté, puis j'étais en train de fouiller pour mes papiers. Fait qu'il a pas eu besoin de courir après moi, j'étais déjà arrêté. Puis, quand il m'a arrêté, quand il est venu voir la police, puis il a commencé son petit speech, j'ai dit, casse-toi pas la tête, agent X, monsieur Richard, je le sais que je roulais trop vite. Tiens mes papiers, donne-moi une seconde, je vais prendre mon portefeuille, je vais donner mon permis de conduire. Ça fait que là, le policier a comme fendu à rire un peu, puis je dis, tu sais, donne-moi l'étiquette, je le mérite, là, tu sais, je sais que je roulais 20 au-dessus, là, envoie-moi ça qu'on peut faire, tu sais, je t'enlève ta job, t'as pas besoin de me convaincre, je sais que je faisais quelque chose de mal. Devine qu'est-ce qui est arrivé. Le policier a rentré dans son char, ça a pris une minute, il est revenu, merci de l'honnêteté, ton ticket, c'est un warning, t'as juste besoin de payer là, la paperasse administrative, ça coûte genre 30$, puis off you go, merci d'être honnête. C'est juste ça qui est arrivé. Mais lui, ça ne tente pas nécessairement de te faire arrêter et de dire « Oh, t'as fait quelque chose de mal, méchant garçon, t'as pas le droit de rouler les... » Je le savais que je roulais trop vite. Ça fait que j'ai arrêté sur le bord du chemin, ça a été fini là, j'ai enlevé tout le côté négatif de ce qu'il devait faire comme policier. Mais si on fait ça avec nos enfants, on fait ça avec nos parents, tu veux pas le chicaner, ton enfant, tu veux juste dire, OK, je veux juste que tu comprennes puis que tu réalises que tu as fait quelque chose de mal. Si l'enfant est capable lui-même de réaliser qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, tu n'as pas mal fait ta job comme parent. Ta job, c'est de dire, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal, puis tu lui donnes le plus d'outils que tu peux pour lui montrer comment vivre. Nous, notre job comme parent, c'est donner, tu sais, il y a une fausse compréhension qu'on a. Quand on a des enfants, on dit que c'est mes enfants. Puis, tu as raison, c'est mes enfants, mais c'est pas une possession comme un téléphone ou un auto ou une maison. C'est pas, mais je leur ai donné la vie. Moi, ma job, c'est de leur montrer quoi faire avec cette vie-là. Puis, la façon que je fais ça, c'est par leur donnant confiance. Je dis, regarde, voici comment tu dois fonctionner. Puis, quand ils font l'action ou ce que je leur ai enseigné, faut que tu récompenses par bravo, un sentiment de confiance. Nos enfants veulent tout qu'on ait confiance en eux, puis eux autres, ils veulent savoir quoi faire avec cette vie-là. Par exemple, moi, j'ai un petit gars qui s'appelle Léo, 1 an. C'est une toupie, c'est une tournade. J'ai jamais vu un enfant qui est curieux de même. C'en est fatigant. Mais il mange ses céréales le matin, c'est une job à temps plein. Puis, on a un jeu chez nous. Léo, il monte les marches 3 700 000 fois par jour. Puis à un moment donné, là, papa, il est tanné de jouer le jeu, c'est que je m'assieds sur ma chaise berceuse, puis je dis, non, Léo, on joue pas le jeu. Puis là, il monte la première marche, puis il me regarde, puis il dit, avec un gros sourire dans la face, non-verbalement, il dit, hey, j'ai un jeu pour toi, viens-t'en avec moi, on va monter, on va descendre, on va monter, on va descendre, ça va être bon. Là, je dis, non, Léo, on va jouer un autre jeu. Ça, c'est une conversation qui peut prendre 5-10 minutes, hein. Mais il m'aide pas tant que je me lève pas. Puis à un moment donné, il va descendre la marche. Et la minute qu'il descend la marche, moi, comme papa, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée une confiance. Et que là, je me dis, bravo, là, j'applaudis, merci d'avoir fait ça. Je t'ai donné quelque chose à faire et tu m'as écouté, donc je réalise que tu as fait quelque chose de bien, donc je donne une récompense qui est un sentiment de confiance. Et là, la minute que je crée une victoire, mon Léo, le chest, il monte, les épaules, il baisse, le sourire de plaqué d'en face, il est confiant, il est content, il est confiant lui-même. Et là, il remonte la marche aussitôt. Mais là, le jeu vient de changer. Il veut plus monter, descendre. Il veut que je lui dise, Léo, descend, pour qu'il m'écoute et pour que je le fasse filer confiant lui-même. C'est juste ça qu'il veut. Notre job, on a juste une job comme parents, c'est d'éduquer nos enfants quoi faire avec cette vie-là. Puis quand on a des bonnes plateformes, on leur montre bien, tu sais, naturellement, mais encore là, je fais lueur de la police, faut pas qu'ils nous voient comme des policiers nécessairement. La journée qu'ils vont nous voir comme des, on discute, on est tous les deux, on n'a pas besoin d'une sanction nécessairement, ils vont être plus ouverts à s'ouvrir.
OK, j'aime cette réponse-là, mais ce que je me demandais vraiment, c'est la question de, disons, les élèves, comme tu sais, qu'on a cette réalisation ici, qu'on frôle la quarantaine, ben, y a-t-il une manière d'apprendre aux jeunes, au secondaire, on va dire, que d'avoir la maturité de réaliser, d'être self-aware de comment est-ce que leur joke n'est pas reçu comme il faut, puis de le fait de pouvoir s'excuser, de pouvoir avoir les guts de le faire, comment est-ce que ça va les faire filer mieux aussi, parce qu'ils auront quand même une satisfaction d'avoir amélioré ou de peut-être réparer une relation avec quelqu'un, un père de l'école. Je me demande s'il y a une manière à essayer d'instaurer ce sentiment-là dans les jeunes d'aujourd'hui.
En fait, si, mettons que un peu comme le rôle parental, si le ou la prof avait un rôle parental puis un sentiment de confiance, c'est-à-dire que si, mettons, moi, je suis prof de n'importe quel niveau, puis la meilleure façon que j'ai trouvée, puis là, je veux dire, c'est simple, puis j'imagine qu'il y a un méchant paquet de profs qui vont écouter ça, qui vont avoir un paquet d'autres idées pédagogiques beaucoup mieux que les miennes, là, je veux dire, vraiment pas prof, là, vraiment pas.
Yeah.
Mais si, par jour, une fois par jour, le prof passait à côté de petit Marcel de cinquième année, il passait, tu dis, hey, tu veux-tu venir me voir dans mon bureau, c'est l'heure du dîner, faut que je te parle. Évidemment, un peu comme le policier, tu vas te sentir comment? Oh shit, mm-hmm. que j'ai fait de mal.
Ouais, yeah, pour sûr.
Puis si, arrivé, il dit, puis comment ça va, Marcel? Je voulais juste te dire allô, puis je voulais juste te demander de parler de n'importe quoi, puis tu as l'air d'être une belle personne à découvrir, merci d'être dans ma classe, tu agis très bien dans ma classe, t'es attentif, tu déranges pas, c'est le fun d'être ton prof, t'es un excellent élève. Cet élève-là, là, comment tu penses qu'il va se sentir après cette rencontre-là? Ça va-tu y tenter de déranger le prof, puis d'être niaiseux, puis de jouer le clown, puis de bon, il va probablement continuer à respecter. Parce que le prof vient de dire, hey, la façon que tu fais ça, là, t'es vraiment un bon élève, continue, tu rends ma job facile, merci de me laisser être ton prof, ou ta prof, évidemment. Donc, si cette personne-là, évidemment, tu vas voir ce prof-là comme étant une figure positive, hein, c'est un prof, puis bon, si jamais j'établis ce lien de confiance-là, évidemment, l'élève va être ouvert à aller en parler parce qu'il dit, hey, il y a une reconnaissance, il me voit cette personne-là, il m'a vu quand je faisais quelque chose de bien. Donc, je lui réponds, si jamais je fais quelque chose de mal, ce prof-là vient me voir et dit, hey, tu peux-tu me voir dans mon bureau? Hey, pourquoi t'as fait ce geste-là ou ce mot-là? Juste d'avoir une conversation, de dire, pourquoi t'as fait ça, tu penses? Ah, ben, je voulais juste jouer, tu sais pas. Là, d'avoir la conversation, OK, le jeu, toi, tu t'es senti comment? Juste de savoir la question, puis là, le jeune, il va vouloir qu'il pense. Dis, je me suis senti comment quand j'ai fait ça? Peut-être qu'ils vont me dire, c'est quoi, j'étais frustré aujourd'hui, je me suis levé du mauvais pied, il était tannant, je l'ai poussé, ça a fait du bien, puis peut-être que c'est juste ça, mais peut-être que c'était, ah, je voulais juste rire, c'était juste une joke, OK? Bon, la personne qui a reçu le geste, a reçu la blague, est-ce que tu penses qu'elle a vécu la même chose que toi? Là, évidemment, mais tu lui poses la question, t'as pas besoin de dire, hey, t'as fait quelque chose de mal.
Ouais.
Mais en posant des questions, t'es en train de diriger l'élève à avoir une réalisation en voici le geste. Il sait qu'il est positif, négatif. Tu as créé déjà un lien de confiance envers l'enfant. Tu sais qu'il est capable de faire quelque chose de bien. L'élève, naturellement, il va vouloir que le prof ait confiance en lui. Ça file. Je me sens bien quand le prof vient me voir et il dit, hey, je suis content que tu es mon élève, tu fais bien ça. On sent un sentiment de confiance. Mais si je fais quelque chose de mal, là, le prof est déçu, le parent est déçu. On veut pas que nos parents soient déçus, hein. Tu sais, la pire chose que tes parents pouvaient faire, de dire quand t'étais jeune, c'est, je suis pas choqué, je suis déçu en toi. Oh! Peux-tu être choqué à la place? Ça fait tellement mal! Je veux tellement pas que ma mère ou mon père soit déçu en moi. C'est le pire sentiment que je peux possiblement ressentir présentement. Mais.
Ben, c'est que tu joues sur la confiance, right?
Ben,
parce que t'es
oui.
prêt de chicaner, t'es prêt de jouer sur la confiance.
Oh. Puis après ça, l'élève, naturellement, il voudra, ou l'enfant voudra pas aller être déçu, c'est la pire chose, c'est que je vais vouloir avoir une confiance. Mais il m'a déjà dit, voici comment tu veux que je veux que tu agisses pour que j'aie confiance en toi. J'ai déjà établi ce lien positif-là. Tu commences pas avec le négatif. Faut que tu aies cette plateforme d'établi positive-là. Un coup que c'est fait, la communication se fait mieux. Mais en posant des questions, en redirigeant l'élève ou l'enfant, là où d'avoir une réflexion par rapport à un sentiment, c'est même que tu fais. Si tu lui dis, il n'y a pas de théorie, il dit, regarde, tu t'es senti comme ça, tu devrais te sentir comme ça. Mais quand que l'élève, tu lui poses la question, lui, il a besoin d'avoir une rétroaction interne avec lui-même, dire, hey, ben, comment je me suis senti par rapport à ça? Comment l'élève s'est senti? Mais là, on commence à générer de l'empathie, de la sympathie. Là, on est capable de voir qu'un élève peut reconnaître que quelqu'un peut ressentir quelque chose de différent face à la même situation sociale.
Cool. Awesome. Hey, c'est vraiment bon. J'ai vraiment enjoyé notre conversation. Ça tire à la fin. J'ai une question que j'ai commencé à poser au monde que je trouve intéressant. Je suis curieux que tu es un gars qui a passé 10 ans à l'université, il n'y a pas de bac de 10 ans. Si tu pourrais te parler de nouveau à l'âge de 18 ans, puis te donner des conseils, parce que j'aime l'affaire de comme j'aimerais te savoir aujourd'hui, j'aimerais te savoir avant que je sois aujourd'hui, si tu pourrais te donner un conseil à l'âge de 18 ans, si tu pourrais t'écrire une lettre de quoi, qu'est-ce que tu dirais?
Probablement que je lui dirais tout ce que le Alain à 10 ans pense connaître, mais réalise pas qui c'est. Dans le sens que, garde, t'es une personne confiante en toi-même, voici c'est quoi tes forces, voici c'est comment tu es comme personne, voici c'est quoi tes talents. Réalise que tu fais ça et prends un pas vers l'avant, puis fais-le de façon active plutôt que « whoops, par hasard, je me suis senti comme ça ». Tu sais, quand on sait « hey, si je vais faire du karaté, je me sens confiant », ben prends un pas vers l'avant activement. Tu sais comment être un bon élève, tu sais comment être un bon fils et puis un bon frère. Et bon, tu sais comment, fais-toi confiance puis ça va bien aller. Tu le sais, réalise que tu le sais. C'est juste ça que je lui dirais.
Awesome, man. Merci beaucoup. J'apprécie le temps que tu m'as accordé pour finir sur Parle-moi de ça, de nous parler de l'intimidation. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Alain.
Merci, Marcel.
C'est malheureusement la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com. Puis dites-moi allô. J'aime tout le temps ça, discuter avec les gens qui écoutent. Alors, je vous souhaite une awesome journée, puis j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine.